c'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Bonjour, aujourd'hui nous allons vous faire découvrir un compagnon omniprésent mais discret, celui sur lequel nous marchons, nous bâtissons, nous cultivons, nous le piétinons tous les jours avec mépris sans lui adresser même un regard. Ce compagnon, c'est le sol, cette croûte terrestre qui est en vérité, nous allons vous le démontrer, un trésor multimillénaire. Comme l'écrit avec emphase et rigueur notre invité, le sol c'est un paroxysme criant de diversité vivante, une explosion baroque de vie, de façons de vivre, de composants chimiques variés et sans doute la plus riche construction du monde vivant. C'est une surface fragile qui fait le lien entre l'atmosphère et la roche et dont notre existence dépend, tout simplement.
C'est pas du vent sur RFI.
Bonjour Marc-André Sellos.
Bonjour.
Vous êtes biologiste et mycologue, professeur au Muséum d'Histoire Naturelle, à l'Université de Gdańsk en Pologne, à celle de Kunming en Chine. Vous étudiez le sol depuis de nombreuses années, notamment les interactions entre les champignons et les plantes. Il y a une vraie vie sous nos pieds. Et votre dernier livre a pour titre « L'origine du monde, une histoire naturelle du sol à l'intention de ceux qui le piétinent », nous donc, j'imagine.
Et oui.
Voilà, et c'est publié chez Actes Sud. Alors, dès l'introduction, vous expliquez « Je veux dépeindre le sol en une fresque accessible à chacun ». Le sol, c'est l'origine du monde, vraiment ?
Alors, il y a eu un monde avant le sol. Le sol date de l'apparition des premières plantes terrestres. Il a 450, 500 millions d'années. Il n'y en avait pas avant. Mais le monde tel que nous le connaissons, alors là, oui, il est complètement construit par l'existence des sols, du climat à la fertilité des océans en passant par notre alimentation. Oui, oui, c'est l'origine de notre monde. Et c'est bien pour ça que c'est aussi l'origine de notre avenir. Et c'est pour ça qu'il faut le comprendre pour pouvoir le protéger et le transmettre à nos enfants.
Alors justement, quelle est votre définition du sol ?
Alors, il y en a plein des définitions du sol. Mmh. Bon, on va faire simple. C'est ce qui est entre l'atmosphère, donc le compartiment gazeux, et le compartiment rocheux, le substrat géologique, les calcaires ou les granites qu'il peut y avoir. Voilà. Alors, et c'est fait d'ailleurs d'un mélange des deux. On va retrouver dedans de l'atmosphère, des petits morceaux de cailloux venus de la roche. L'atmosphère, elle est dans les trous. Et on va aussi trouver la matière organique venue de la mort des plantes ou des animaux morts. Et puis, proliférant là-dedans, une extraordinaire explosion de vie.
Oui, alors le sol est opaque, on ne le voit pas à l'œil nu, c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on ne s'en occupe pas beaucoup, ou en tout cas mal. Pourtant, il a une matière extrêmement riche, ce dont vous parliez à l'instant. Il abrite énormément de biodiversité, de champignons, de racines, de micro-organismes. Si on pouvait voir le sol vivre, on s'en occuperait sûrement mieux, non ?
Ça, c'est vrai, c'est vrai. Vous parliez tout à l'heure de jeter un regard sur le sol. Bah, le problème, c'est qu'il n'est pas transparent. Et puis en plus, la plupart de ses habitants sont microscopiques. Et donc, on ne les voit pas. Mais prenez un sol de chez nous. Vous avez dans un gramme plusieurs milliers d'espèces de bactéries qui comptent, alors chaque espèce est représentée par plusieurs petites cellules, plusieurs milliards de cellules bactériennes dans ce gramme. Il y a dans ce gramme un bon millier d'espèces de champignons qui forment des filaments ramifiés, connectés en réseau, ce qu'on appelle le mycélium. Il y a là-dedans des amibes, des paramécies, des petits organismes unicellulaires qui comptent là encore une bonne centaine au moins d'espèces. Au total, 25% des espèces connues habitent le sol. Et pour prendre les choses différemment, maintenant, prenons un hectare. Il y a en gros 5 tonnes de racines de plantes, le tiers de la masse des plantes est en dessous, ça fait l'équivalent d'une centaine de moutons. Il y a 5 tonnes de bactéries et de champignons, et encore 100 moutons invisibles, mais c'est des moutons invisibles parce qu'ils sont dans le sol. Et puis il y a 1,5 tonne d'animaux, allez je vous le fais à 200 moutons. Ça nous fait ça, 220 équivalents de moutons, mais qu'on voit pas parce qu'ils sont dessous. En fait, 50 à 75% de la masse vivante est dans le sol. Elle est extraordinairement diverse, et dans, je pense qu'on aura l'occasion de redire aussi la diversité des choses qu'elle fait. Mais en fait, les écosystèmes terrestres, ils sont dans le sol. Nous sommes à la surface des écosystèmes terrestres. Et comme ce n'est pas transparent et trop petit pour être vu à l'œil nu, nous ne réalisons pas que nous vivons dans la banlieue des écosystèmes terrestres.
Et alors, la couleur du sol révèle aussi sa composition. Par exemple, nous avons beaucoup d'auditeurs sur RFI en Afrique. C'est une terre très, très rouge. Pourquoi la terre est rouge sur le continent africain ?
Chez nous, elle est dominée par la matière organique morte. Et donc, le sol est plutôt foncé, noir. Quand on va vers des climats plus chauds et humides, l'altération des roches est plus rapide. Et l'altération libère tout un tas de sels minéraux, comme on les appelle, qui passent dans l'eau du sol, du potassium, du calcium, du phosphore. Et le problème, c'est qu'il y en a qui ne sont pas mobiles et qui s'accumulent. C'est le cas du fer et de l'aluminium, d'ailleurs. L'aluminium est blanc. Le fer, quand il est oxydé au contact de l'air, ben, il a la couleur de la rouille. Et donc, dans les sols tropicaux, sous l'effet de la chaleur et de l'humidité qui accélèrent les processus de dissolution, on va hériter d'une grande quantité de fer et d'aluminium qui est le produit de la déstabilisation de la roche, mais qui reste en place et qui finissent par s'accumuler. Ça s'appelle la rubéfaction, parce que le fer est rouge. Et ça, c'est une signature des sols tropicaux. Mais vous savez, ça commence autour de Montpellier. Regardez le sol autour de Montpellier. En climat méditerranéen, il est déjà beaucoup plus rouge que dans le nord de la France.
Alors, vous écrivez « Les eaux sont les larmes du sol et l'air contient ses soupirs ». C'est presque de la poésie.
Mais le sol, c'est beau. Et il faut se convaincre de ça, c'est ce que j'essaie de raconter dans ce livre. C'est picaresque et sublime. Bon, ben, alors prenons le cas de l'eau et abordons un point d'actualité récente. Les pêcheurs bretons essaient de se battre pour continuer à aller pêcher dans les eaux de Grande-Bretagne. Que ne vont-ils au milieu de l'Atlantique ? Ben, c'est très simple. Les eaux poissonneuses sont le long des continents. Et la plupart du temps, c'est juste que c'est là qu'arrivent les sels minéraux avec les rivières. Et ces sels minéraux, ils viennent d'où ? C'est que les eaux ont circulé dans les sols où elles se sont chargées de phosphore, d'azote, de potassium, bref, de sels minéraux qui sont issus de l'activité des sols et qui vont passer dans les rivières et fertiliser la façade océanique. Et l'essentiel de la production d'algues et de là de poissons se trouve le long du littoral. Au milieu de l'océan, il n'y a pas de sol. Quand il y a un cadavre, il sombre en emportant corps et biens tout le potassium, tout le phosphore, tout l'azote qu'il contient, il n'y a pas de recyclage en surface. Du coup, rapidement, il y a beau avoir de la lumière et de l'eau, ben les algues ne se développent pas, il n'y a pas grand-chose au milieu de l'océan. Notre nourriture sort du sol parce que nous récoltons dans les champs, nous mangeons des animaux qui ont mangé dans les champs, dans les prairies, mais aussi parce que ce qui vient de l'océan sort en fait du sol.
Alors vous avez écrit aussi dans votre livre qu'on ne doit pas commencer à lire votre livre sans prélever et observer un fragment de sol. Alors je vous ai apporté un fragment de sol de mon jardin. Voilà.
Alors déjà, bah, il sent bon le sol. Il sent la terre. Et ça, c'est l'odeur en fait de bactéries. Et ça révèle un groupe de bactéries très important, les actinobactéries, qui produisent de la géosmine. Cette géosmine, hein, on ne sait pas très bien d'ailleurs à quoi ça leur sert, mais elles en produisent beaucoup. Et ça donne l'odeur de terre. Et d'ailleurs, après la pluie, quand l'eau envahit les pores du sol et expulse l'air du sol, cette géosmine diluée contribue à cette fameuse odeur d'après la pluie, hein, cette odeur très spéciale quand il a plu, qu'on appelle le pétrichor techniquement, et qui en réalité est tout simplement l'odeur de ces actinobactéries. Par parenthèse, ça veut dire qu'il y a des groupes de bactéries comme ça qu'on connaît bien parce qu'on les sent depuis qu'on est enfant, et on n'a pas donné de nom à la preuve flagrante qu'elles sont hyper abondantes dans les sols. Ces bactéries, vous les connaissez parce que c'est par exemple des streptomycèses ou des actinomycèses qui font partie...
Je connais ça, moi.
Ben, vous avez peut-être croisé l'actinomycine ou la streptomycine, qui sont des antibiotiques assez connus,
d'accord,
utilisés en pharmacie, et qui sont des antibiotiques qui viennent de ces bactéries du sol. Ce qui montre au passage qu'une autre richesse des sols, c'est l'utilisation qu'on peut faire de la biodiversité qu'ils contiennent, même en dehors d'une logique agricole.
Le sol est donc un écosystème d'une richesse inouïe. Vous nous l'avez un peu fait découvrir. On pourrait passer des heures à vous écouter.
On pourrait écrire un livre.
On pourrait écrire un livre. Vu qu'il a été écrit, on peut le lire en tout cas. Donc une richesse inouïe à préserver. Mais ce n'est pas vraiment malheureusement ce que nous faisons actuellement. Nous en parlons juste après ça.
Parce que les vers de terre ne mangent pas, il ne restera sur terre de nous un peu de rien pour faire un peu de tout. Avons-nous besoin de laisser ici? Hey! La, 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 la.
La chanson des vers de terre par le quintet Opatsupa dans C'est pas du vent sur RFI.
RFI.
Les grands principes de ma culture biologique, c'est premièrement, comme je vous ai dit, mieux soigner la fumure organique. La santé de l'humus dépend de la santé des animaux qui ont fabriqué cette matière organique.
Des questions, des témoignages, des idées, écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr.
Nous parlons du sol. Aujourd'hui, le sol, cette si fragile surface de la Terre, abrite une incroyable richesse biologique. Mais c'est difficile de se faire respecter quand on vous marche dessus. Heureusement, les scientifiques étudient de près sa structure et ses modifications, notamment en fonction des méthodes agricoles choisies. Nous sommes allés au centre de recherche de l'INRA, l'Institut français de recherche agronomique à Versailles, près de Paris, avec Claire Chenu et Laure Vieublet-Gonneau, professeure à AgroParisTech, et Juliette Chassin. Stagiaire à l'INRA.
Alors nous sommes sur un essai expérimental INRA. C'est un essai où sont comparés depuis 20 ans différents systèmes de culture.
L'INRA, c'est l'Institut National de la Recherche Agronomique.
Et depuis 20 ans, nous comparons différents systèmes de culture, on va dire pour faire simple, en culture de céréales. Rotation avec des céréales, un système qu'on peut qualifier de productif, objectif de rendement important, respect des réglementations environnementales, mais utilisation donc de fertilisants, de produits phytosanitaires. Un système de culture où on essaie de réduire les doses de fertilisants minéraux et de pesticides, donc bas intrants. Un système de culture qui correspond au cahier des charges de l'agriculture biologique, donc pas d'intrants de synthèse. Et un système en agriculture de conservation, c'est-à-dire qu'on ne laboure jamais le sol n'est jamais travaillé, on sème directement le sol et il y a en permanence une plante de couverture qui est ici une luzerne. Voilà, donc quatre systèmes de culture qui sont mis en place depuis 20 ans. Et pour nous, c'est un terrain assez formidable pour étudier l'effet des pratiques agricoles sur les sols, sur les propriétés des sols.
Et là, nous sommes clairement physiquement au carrefour de ces quatre cultures.
Tout à fait. Là, vous avez du blé en productif. Là, il y a du blé en agriculture biologique, de l'avoine en agriculture de conservation et de la févrole en système à bas intrants.
Alors, est-ce qu'on peut aller creuser ce sol?
Bah oui, on va demander à Juliette.
Bonjour Juliette.
Bonjour.
Vous êtes étudiante, donc voilà, c'est à vous que les professeurs délèguent la tâche de creuser ce sol. Alors, on commence par où, Claire?
On essaie le conventionnel, le productif, hein ? On va essayer de creuser. Alors, ce ne seront pas les conditions optimales pour observer le sol, parce que là, c'est bien sec. Et puis, les organismes, par exemple, les vers de terre, quand il fait trop sec, ils s'enfouissent. Ils vont plus en profondeur. Donc, on va voir. On va essayer.
Essayons. Alors, on rentre dans le champ de blé par un passage
de roue. Le blé est déjà bien haut, hein, il fait 1 mètre de hauteur et effectivement on voit que la surface du sol, donc nous sommes dans la parcelle productive, on voit que la surface du sol est bien sèche. On va essayer.
Donc productive, on va rappeler ce que ça veut dire.
Alors c'est qu'on vise le rendement maximal possible pour ce type de sol et ce type de climat en apportant des doses d'engrais nécessaires à la croissance attendue des plantes, hein, on n'en apporte pas en excès, et puis en apportant les produits phytosanitaires, donc des pesticides, lorsqu'il y a des maladies déclarées ou lorsqu'on anticipe le développement de maladies.
Et c'est cette agriculture qui est aujourd'hui remise en cause ?
Qui est remise en cause pour de multiples raisons, dont des raisons d'impact sur l'environnement.
Thank you.
Non, la bêche ne rentre pas dans le sol. C'est trop dur.
Oh ouais, c'est beaucoup trop dur là. Ça va être difficile. On a l'impression que c'est du caillou alors que c'est du sol, mais...
La difficulté, on va le voir quand on va sortir cet échantillon, si Juliette y arrive, c'est que les sols de ces agricultures conventionnelles sont souvent, fatigués.
Dégradés parce que sensibles à l'érosion. Enfin, ces sols sont de manière générale appauvris en matière organique par rapport à ce qu'ils pourraient être ou par rapport à ce qu'ils sont sous prairie permanente. Et étant appauvris en matière organique, ils perdent certaines qualités physiques, ils deviennent plus sensibles à l'érosion, ils hébergent moins de biodiversité. Et dans certains cas, si on ne restitue pas au sol, sous forme minérale ou sous forme organique, les éléments minéraux qu'ont exportés les cultures que l'on récolte, on a des sols qui s'appauvrissent. Littéralement, on peut parfois, alors ça n'est pas le cas ici, mais parfois on fait une agriculture minière, c'est-à-dire que les plantes exportent des éléments minéraux. Si on ne les remplace pas dans le sol, le sol s'appauvrit progressivement.
En fonction des pratiques, alors, il y a plus ou moins de biodiversité dans le sol.
Tout à fait. On trouvera par exemple beaucoup plus de biodiversité dans les sols sous agriculture de conservation ou en agriculture biologique.
Et là, c'est finalement le meilleur moyen de protéger un sol ?
Alors, il n'y a pas un meilleur moyen, il y a des meilleurs moyens, puisque la combinaison de pratiques peut favoriser la biodiversité. Mais par exemple, dans les sols en agriculture de conservation, on n'a pas de travail du sol ou un travail très superficiel, et donc qui évite les blessures directes sur des organismes comme les vers de terre, par exemple, ou qui évite de détruire les habitats, et donc on va favoriser ces macro-organismes, par exemple.
Et ensuite, on va voir quoi ? Un sol
en agriculture de conservation ?
Donc ce sont un peu les deux extrêmes, en fait, en termes de rapport au sol.
Ouais. Oui.
Je vois qu'il y a des coquelicots, il n'y en avait pas tout à l'heure dans le champ de blé.
Non, il n'y en avait pas, parce qu'en fait, ici, dans ce système de culture en agriculture de conservation, on est également en réduction des intrants. Donc il y a moins d'apport de fertilisants minéraux, d'azote minéral, et puis moins de pesticides apportés, moins d'herbicides, et donc de coquelicots. Alors en fait... On apporte quand même des herbicides dans ce système parce que le labour et de manière générale le travail du sol est une des manières que l'agriculteur a à sa disposition pour réguler la croissance, contrôler la croissance des mauvaises herbes. Lorsqu'on n'a pas de travail du sol, lorsqu'on n'a pas de labour, on fait souvent appel à des désherbants chimiques. Voilà, et c'est le cas sur cette parcelle.
Mais certains ne font pas appel à des herbicides malgré tout, ça veut dire plus de travail manuel ?
Il y a un compromis à trouver, c'est-à-dire quand on ne veut pas utiliser des herbicides, la manière de contrôler les mauvaises herbes, c'est de travailler le sol, c'est de le labourer, de l'émietter régulièrement. Certains agriculteurs arrivent à diminuer fortement, voire à ne pas utiliser d'herbicides, tout en diminuant le travail du sol, en étant non-labour. Mais c'est, j'ai envie de dire que c'est un peu de la haute voltige qui nécessite un savoir-faire assez extraordinaire. Voilà, mais regardez Anne-Cécile, la surface du sol n'est pas nue. Il y a toute une litière. Regardez, une litière qui fait, oula, il y a un bon centimètre d'épaisseur. En fait, comme le sol n'est pas labouré, les résidus de culture de l'année d'avant restent à la surface du sol et ça fait une litière. Une litière qui apporte de multiples bénéfices et entre autres de protéger en hiver la surface du sol de l'action de la pluie et donc de protéger le sol de l'érosion. Un autre avantage d'avoir une litière dans les pays de climat sec, c'est que la litière limite l'évaporation de l'eau du sol. Donc on garde l'humidité plus longtemps dans le sol.
Alors Juliette, comment il est ce sol ? Aussi dur que tout à l'heure ?
Eh ben non, écoutez, de façon surprenante, je le trouve moins dur. Et je pense que c'est dû au fait qu'il y ait une couverture sur la surface qui a maintenu un petit peu l'humidité dans le sol. Donc le sol a l'air d'avoir moins souffert de la sécheresse et donc il est un petit peu plus facile à creuser.
On voit bien qu'il y a quand même deux sols de qualité très différentes.
Vous voyez, deux sols de qualité très différentes qui sont, on a fait quoi ? On a fait même pas 10 mètres. Et ça, dû aux pratiques agricoles. Donc l'homme, par la manière dont il gère les sols, par les pratiques agricoles qu'il a, mais on pourrait parler aussi de pratiques forestières, on pourrait parler de pratiques d'entretien des jardins en ville, affecte la qualité des sols et peut maintenir la qualité des sols. Peut la dégrader, bien sûr, mais peut maintenir la qualité des sols, voire même l'améliorer.
Thank you.
Marc-André Selloge, je rappelle que vous êtes biologiste et mycologue et que vous venez de publier L'origine du monde, une histoire naturelle du sol à l'intention de ceux qui le piétinent chez Actes Sud. Alors comment est-ce que vous réagissez à ce travail des chercheurs de l'INRA qui scrutent comme ça l'évolution des sols en fonction des méthodes agricoles choisies ?
Ah ben bien, bien, parce que c'est l'avenir de comparer les méthodes et de voir celles qui, au regard des demandes sociétales et qui aujourd'hui sont des demandes d'avoir un environnement durablement utilisable et durablement vivable pour les générations à venir, ils étudient les différentes options et elle parle d'or, elle et ses collègues, Claire Chenu et ses collègues parlent d'or, parce qu'effectivement aujourd'hui on voit qu'il y a d'autres façons d'avoir des sols qui rendent la même production, donc les mêmes services aux agriculteurs, sans avoir recours aux outils de l'agriculture conventionnelle. Alors, quand même, il y a une chose qu'il faut dire, c'est que l'agriculture conventionnelle n'a pas été inventée par des terroristes. Les gens qui ont inventé les engrais chimiques, les pesticides, avaient une question sur la table qui était celle de stabiliser l'alimentation quantitativement. Et ils y sont arrivés. Le problème, c'est qu'on voit très bien que les engrais finissent dans les eaux continentales et puis sur les rivages. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, ça finit en mer. Mais ça fait proliférer des algues, comme des algues vertes en Bretagne, comme dans les Caraïbes, des algues brunes, les marais de Sargasses. Donc il y a un vrai problème. D'autre part, quand vous mettez des pesticides, vous abîmez la vie de l'agriculteur, la vie des consommateurs avec les résidus de ces pesticides, et puis vous diminuez la vie du sol. Or, on l'a vu, la vie du sol, c'est elle qui creuse les trous qui font que le sol est aéré, que l'eau rentre dedans, et la fourche bêche de cette collègue aussi, si elle rentre dans le sol, c'est qu'il est vivant. Sinon, rien ne vient le décompacter et l'aérer. Donc aujourd'hui, on s'aperçoit que les effets secondaires de l'agriculture conventionnelle demandent de penser à d'autres méthodes. Il y a déjà des agriculteurs pionniers qui pratiquent ces méthodes et on a besoin de savoir comment les généraliser.
Il y a une vie intense dans ces sols, hein. C'est pour ça que c'est important de ne pas les maltraiter trop. Il y a des gagnants-gagnants et ça c'est vraiment votre spécialité, toutes les interactions qu'il y a à l'intérieur de ces sols entre les racines. Il y a des dessins d'ailleurs très drôles dans votre livre à ce sujet.
Ah oui, Arnaud Raphaëlian, donc le dessinateur avec qui je m'acoquine toujours, a fait des dessins absolument décalés. Vous verrez sa version de l'origine du monde d'ailleurs, du tableau de Courbet dans le livre. Alors oui, la vie, elle fait plein de choses, mais je voudrais juste vous en donner deux. Dans le sol, il ne devrait pas y avoir d'azote, parce qu'il n'y a pas d'azote dans les roches. D'où vient-il ? Il y a dans le sol des bactéries qui font entrer l'azote dans le vivant sur Terre. Ces bactéries, elles sont capables de convertir l'azote atmosphérique, parce qu'il y a de l'air qui rentre dans le sol, ce gaz, elles sont capables de le transformer en protéines. Et elles se développent ainsi très bien, et puis quand elles meurent, ces protéines rentrent dans le stock de matière organique qui se décompose, et petit à petit, ça va redonner des nitrates ou de l'ammonium qui vont être utilisés par les plantes. Donc vous voyez qu'il y a des modes de vie assez bizarres, hein, des bactéries qui se nourrissent en azote, non pas en mangeant des beefsteaks, mais en utilisant l'air, et qui vont construire la fertilité des sols. L'autre grand rôle du vivant, c'est de mélanger, de touiller. On a dit que les vers de terre mélangeaient, mais il n'y a pas que... La plante prélève en profondeur des sels minéraux qui montent avec la sève et qui retombent en surface dans les parties mortes, tandis que ses racines poussent de façon intrusive, et ça va libérer par le biais de fuite de la matière organique. Et puis quand les racines meurent, ça a injecté de la matière organique dans le sol. Et finalement, vous voyez que vous avez une injection en profondeur de matière organique et un retour de sels minéraux en surface par le biais des feuilles mortes. Donc il y a un grand travail comme ça. Et cette capacité du vivant à déplacer les choses, elle a été utilisée par les plantes qui associent leurs racines à des champignons du sol qu'elles nourrissent en sucre. Et les fins filaments de ces champignons vont explorer le sol et aller chercher l'azote, le phosphate, le potassium dont la plante a besoin, et le ramener à la plante. Vous voyez que la plante sous-traite le déplacement dans le sol à des champignons. Cette association-là, qui est gagnant-gagnant, comme vous disiez, c'est ce qu'on appelle la mycorhize, c'est ça qu'étudient mes équipes de recherche, et c'est comme ça que les plantes arrivent à subvenir à leurs besoins dans des sols où il n'y a pas beaucoup à manger. Elles payent des champignons pour faire les courses.
Alors, le problème, c'est qu'il y a des perturbations qui sont apportées à tous ces équilibres si fragiles. Parfois, le chemin des courses est semé d'embûches.
Ah bah, une lame de charrue, par exemple, voilà. C'est pas très bon pour les filaments du champignon.
Donc, qu'est-ce qu'il faut éviter ?
En fait, ce qu'il faut, c'est qu'on reprenne la logique historique des sols, qui est d'être un tout petit peu brassé, effectivement, par les vers de terre, qui notamment remontent la partie de la fertilité qui est issue de l'altération de la roche et descendent de la matière organique en profondeur. C'est bien de mélanger, mais un peu seulement. Vous savez, l'agriculture amérindienne, il n'y avait pas de labour, il n'y avait pas d'animaux de trait. On faisait juste un trou pour mettre les graines. Alors, bon, il y a un travail de désherbage important, mais on a nourri de grandes civilisations sans labourer. Et le labour, il pose un problème, c'est que les sols s'érodent plus. Surtout comme disait Claire Chenu tout à l'heure, quand il manque de matière organique, parce que là, ils ont encore moins structuré. Un sol labouré érode 10 à 100 fois plus qu'un sol couvert de végétation et non labouré. Ce que ça veut dire, c'est que nos sols labourés sont en train de fondre sous nos yeux. Dans la Corn Belt américaine, il y a plus de 30% de la surface qui a perdu toute la partie superficielle du sol. Et on estime que le rendement de maïs dans cette grande zone, donc la Corn Belt, a diminué de 6% à cause de ça. Donc on est en train de perdre nos sols par le labour. On est en train de les intoxiquer par certains intrants. Et aussi, on est en train de les enrichir trop en engrais. Je vous disais que les plantes payent des champignons pour faire les courses, mais quand il y a beaucoup d'azote et de phosphate, comme quand on met des engrais minéraux dans le sol, elles ne payent plus les champignons. Et donc demain, elles deviennent dépendantes des engrais. Et comme ces champignons, en plus de faire les courses, protègent les racines contre les agresseurs du sol, elles deviennent plus dépendantes des pesticides parce qu'elles se défendent moins bien. Vous voyez qu'on a rompu des logiques et demain, il faut trouver une agriculture qui appuie sur ces logiques.
Oui, parce que le problème d'avoir rompu ces logiques, c'est que petit à petit, comme vous le disiez, les sols se dégradent. Ça s'appelle la désertification. Alors, comme dans C'est pas du vent, nous aimons la fiabilité des informations, qui de mieux pour nous expliquer ce phénomène que Ibrahim Thiaw, qui n'est autre que le secrétaire exécutif de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et la dégradation des terres.
La désertification, c'est la transformation négative des terres ou leur dégradation dans les zones arides, semi-arides et sub-humides sèches du fait de facteurs humains ou de facteurs climatiques. Donc, les écosystèmes sont perturbés et la productivité baisse.
Voilà, mais ce ne sont pas forcément les déserts qui avancent. C'est un peu ce que l'on a tendance à penser quand on entend parler de désertification.
Ce n'est pas une vague, ce n'est pas comme un feu qui avance. C'est en fait comme un cancer qui se propage à petite dose et qui ne devient visible que quand c'est trop tard. Donc, c'est vraiment des petites taches qui s'accumulent et qui font une mosaïque. Cela peut être dans les zones proches du désert, et dans ce cas, effectivement, ça peut se rapprocher, mais ça peut se passer également dans des zones subhumides au milieu de la savane, où des poches de désertification se développent. Alors, on estime que plus de 3 milliards de personnes aujourd'hui sont affectées par la dégradation des terres. À peu près 40% de la surface totale de la Terre, c'est quand même énorme. Et c'est d'autant plus grave que la population dans ces zones-là, elle a un fort taux de croissance. Et donc, on estime que d'ici l'an 2050, bien 4 milliards de personnes pourraient être affectées par la désertification.
Et bien sûr que les personnes affectées sont les personnes les plus pauvres, donc celles qui dépendent étroitement justement des ressources naturelles.
Exactement, qui n'ont pas de compte bancaire, qui n'ont pour revenu que le capital naturel. Or, on estime que 75% des terres à travers le monde sont déjà affectées par les phénomènes de dégradation et que 23% de ces terres ne sont plus productives du tout.
Et alors, cette dégradation des terres a de nombreux impacts. On va en parler des impacts économiques tout d'abord.
Selon certaines estimations, les pertes liées à la dégradation des terres peuvent être estimées à plus d'$1 milliard par jour. C'est quand même énorme. Et sachant que les populations justement les plus vulnérables sont celles qui sont affectées par cette dégradation des terres, on a beaucoup de gens qui sont laissés pour compte.
Et alors ça entraîne des conséquences du coup, d'une façon plus générale, sur la sécurité et la paix dans de nombreuses régions, et notamment sur le continent africain. Alors comment fait-on le lien entre ces phénomènes?
Alors quand un jeune du Sahel n'a plus d'opportunité de produire sur sa terre, quand la ville le repousse ou qu'il vit essentiellement dans un bidonville où l'accès à l'eau et l'électricité sont plutôt hasardeux, il n'a d'autre choix parfois que de s'allier au diable, disons, faisant allusion bien sûr aux groupes terroristes qui sévissent dans la région et qui continuent de recruter pour des sommes parfois modiques des jeunes qui sont totalement désœuvrés. Ou alors ça peut entraîner des phénomènes de migration irrégulière, massive, qui peuvent aller vers les villes voisines, les pays voisins, ou de plus en plus vers les continents voisins. C'est aussi les conflits entre usagers du milieu naturel. Donc, quand il y a une compétition pour l'accès à l'eau et à la terre, on voit de plus en plus d'agriculteurs et d'éleveurs, par exemple, qui s'affrontent. On estime que dans un pays comme le Nigeria, il y a plus de conflits ou de morts entre agriculteurs et éleveurs que dû à Boko Haram. Donc c'est véritablement une situation explosive. Et sachant que les ressources diminuent d'une part et que la population croît d'autre part, eh bien, on s'achemine vers des situations encore plus difficiles, si on prend garde.
Et voilà, Marc-André Solos, comment on fait le lien finalement entre la dégradation du sol, la désertification et l'insécurité alimentaire, la montée du terrorisme dans certaines zones et les migrations. Tout cela est lié.
Oui, selon un rapport de l'IPBES, hein, on compte que effectivement, d'ici 30 ans, c'est 100 à 700 millions de personnes qui seront condamnées à migrer juste pour se nourrir parce que leurs sols seront devenus improductifs. Et d'ailleurs, je voudrais mentionner, en marge de la désertification, une fausse bonne solution qui est l'irrigation. Quand l'eau s'évapore parce que le climat est chaud, c'est très dangereux d'irriguer. Parce que c'est exactement ce qui se passe quand vous avez un pot de fleurs et que vous arrosez, vous allez être obligé de rempoter. Pourquoi on rempote? C'est à cause de cette croûte blanchâtre qui se forme en haut du pot de fleurs. Je m'explique. Quand il pleut, c'est de l'eau. Quand on irrigue, c'est de l'eau qui a déjà croisé des sols et des roches et qui amène des sels minéraux. Des sels minéraux qui vont être amenés avec elle. Et si l'eau repart par évaporation, ils vont se déposer dans le sol. Ça s'appelle la salinisation. Et la salinisation, c'est quelque chose qui, au début, diminue la production, mais surtout, à terme, va rendre le sol infertile. Les Romains, d'ailleurs, quand ils voulaient détruire totalement une des cités qu'ils avaient conquises et contre laquelle ils s'étaient battus, ils salaient les sols. Aujourd'hui, on compte que 25% des surfaces irriguées ne sont pas du tout capables d'exporter un peu d'eau, c'est-à-dire d'être drainées de telle sorte que ces sels minéraux ne partent pas. Parce que s'ils partent, c'est pas grave, hein, s'il y a un petit peu de ruissellement, mais 25% des surfaces irriguées ne sont pas capables de faire ça, elles sont en train de se saliniser. C'est 2000 hectares par jour qui deviennent improductifs à cause de la salinisation, notamment en Afrique. Et ça, c'est quelque chose d'important, c'est-à-dire que le geste réflexe par rapport à la désertification qui est d'irriguer, il faut le faire bien, il faut drainer un peu, sans quoi, alors on est tout simplement en train d'amplifier le problème.
Alors, est-ce que perdre un sol, c'est irréversible ?
De la façon dont je viens d'en parler, oui. De la façon dont on est en train de le faire dans les régions où on a du labour et où l'érosion augmente, oui. Et un sol, ça ne se refait qu'en quelques milliers d'années. Donc, à notre échelle, oui. Mais là où il faut être positif, parce que le verre est aussi à moitié plein, c'est qu'en termes de biodiversité, on voit très bien qu'avec les pratiques de l'agriculture conventionnelle, les effectifs des microbes chutent. Mais il n'y a pas vraiment d'espèces qui soient disparues. L'extinction est commencée. Il y a moins de représentants, mais ils sont là. Et il est donc parfaitement temps, en termes de vie du sol, de redresser la barre. Mais il faut la redresser. Il faut la redresser vite. Il faut comprendre que c'est une ressource non renouvelable, que nous devons gérer en père de famille. C'est-à-dire que nous devons transmettre le capital à nos enfants en encaissant que les intérêts, c'est-à-dire la production. Et notamment, nous devons comprendre qu'on ne peut pas recouvrir un sol avec des installations urbaines. C'est parce que souvent, quand les villes grandissent, c'est là où elles se sont installées, c'est-à-dire dans des plaines fertiles. Et on a aussi un autre problème aujourd'hui qui est qu'on enfouit les sols sous du béton ou sous du macadam. Et ça, c'est un désastre. Bon, déjà, en termes de régulation des inondations, c'est une catastrophe parce que c'est le sol qui régule le cycle de l'eau. Mais c'est aussi une catastrophe en termes de perte de pouvoir nutritif pour l'humanité. Et aujourd'hui, ce n'est pas du tout pris en compte. Au contraire, étendre les villes, ça fait, on dirait, partie du rôle des édiles. Bah, en gros, c'est juste affamer les générations à venir.
Alors pourtant, vous l'avez un peu développé, il y a des solutions pour limiter cette dégradation des sols. On en parle juste après Pierre-Jean Zantmann qui chante « Il y a de la vie sous terre » dans « C'est pas du vent » sur RFI.
Il y a de la vie sous terre, on l'a peut-être bien oublié. Et si l'on sait se taire, on pourrait peut-être l'écouter. Il y a de la vie sous terre, et si l'on ne sait pas quoi faire, on pourrait s'arrêter, prendre le temps de l'observer. Vois-tu ce ver de terre se faufiler le ventre à terre? Il vient nourrir la terre en la trouant comme du brouillère. Et toutes ces fourmis qui travaillent de jour comme de nuit, elles bossent comme des chameaux sans prendre un seul jour de repos. Il y a de la vie sous terre, on l'a peut-être bien oublié. Et si l'on sait se taire, on pourrait peut-être l'écouter. Il y a de la vie sous terre, et si l'on ne sait pas quoi faire, on pourrait s'arrêter, prendre le temps de l'observer. Thank you. dans sa grotte, la taupe aveugle mange des mottes. Elle mène une vie austère sous ses faux airs de bulldozer. La limace s'engourdit, s'ennuie en attendant la pluie. Elle sort alors son nez pour se prélasser dans les allées. C'est vrai que la vie sous terre n'a vraiment rien de familier. Et même une montgolfière n'y pourrait vraiment pas voler. Mais si la vie sous terre arrêtait pourtant d'exister, alors nos pommes de terre n'y pourraient plus, n'y plus pousser.
Jean Zantman dans C'est pas du vent sur RFI. Nous parlons du sol aujourd'hui, cette fragile couche de terre que nous piétinons sans ménagement et qui pourtant nous rend tellement de services. La qualité du sol dépend de la manière dont nous le traitons. J'espère que vous l'avez compris à travers cette émission. Par exemple, un sol désertifié peut redevenir fertile. C'est le combat que mène depuis 40 ans la ferme de Guié, à 60 km au nord de Ouagadougou, au Burkina Faso. Sédou Kabore est agro-économiste et directeur de la ferme.
Ici, on est à l'entrée du périmètre bocager de Tankouri. C'est un périmètre qui a été aménagé en 1998. Il fait 100 hectares et il est exploité par 23 familles. Et le principe d'aménagement, c'est l'aménagement anti-érosif. On réalise des diguettes en terre pour empêcher l'eau de sortir des champs. Et en plus de cela, il y a des zones de retenue d'eau pour les périodes de grosses pluies. C'est l'aboutissement de 25 ans de travail. Et aujourd'hui, on a au total 504 hectares de périmètre. Et le plus grand à ce jour, il fait 146 hectares.
On va rentrer à l'intérieur pour voir s'il y a une grande différence finalement entre ce qui est cultivé à l'intérieur du périmètre bocager et ce qui est cultivé à l'extérieur. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Hein.
Oui, c'est février. Et février, on est reconnu pour être un mois de beaucoup de vent. La fin de l'harmattan, le vent d'est qui souffle.
Un vent qui dessèche aussi.
Oui, qui dessèche. C'est un peu l'harmattan, quoi.
Voilà. Périmètre bocager qui est fermé avec un gros cadenas. Hein. On n'y rentre pas comme ça.
C'est les champs expérimentaux. Voilà, parce que c'est, on va dire, c'est notre laboratoire.
On repère, alors vous me dites si je me trompe, mais la technique du ZAI là, parce qu'il y a des trous dans le sol avec des feuilles à l'intérieur. Alors expliquez-nous ce que c'est que cette technique et à quoi elle sert.
Et la technique du ZAI, on va dire, a été inventée dans les années 70 dans le Yatenga. Et c'est une technique de récupération des sols, parce que ça permet à la fois de garder l'eau et aussi de garder les nutriments pour les cultures. Donc ça consiste simplement... Je dis simplement, mais c'est quand même assez dur à mettre en place. Ça consiste à creuser un trou d'une dizaine de centimètres de profondeur et d'une trentaine de centimètres de diamètre. Dans ce trou, on dépose du compost à la saison des pluies, on sème.
Et le fait que ce soit dans un trou, ça garde mieux du coup l'humidité, voilà, ça évite, s'il y a des pluies, que le sol soit lessivé.
C'est l'objectif premier même, c'est cela. De garder l'eau, parce qu'on est dans des zones, en zone sahélienne, il pleut. On va dire... En gros, il pleut assez pour faire pousser des cultures. Mais après, c'est les périodes, les zones de sécheresse, là, dans la saison des pluies, c'est là qui devient problématique, quoi. Par exemple, ici, on a eu 714 mm, on va dire en moyenne 700 mm par an. Mais on peut avoir de mauvaises récoltes parce que simplement, pendant la saison des pluies, il y a eu peut-être 10 jours sans pluie.
Marc-André Sellos, voilà des bonnes techniques pour restaurer des sols ou en tout cas essayer d'entretenir la biodiversité qu'il y a à l'intérieur, même de sols dans des régions très arides comme au Burkina Faso.
Oui, et là il faut saluer à la fois des initiatives individuelles et puis aussi des travaux de recherche. Moi j'ai l'honneur, parce que je pense que c'est un honneur d'être dans le conseil scientifique d'un laboratoire à Dakar, le LAPS, hein, le Laboratoire Mixte International d'Adaptation des Plantes et Micro-Organismes Associés aux Stress Environnementaux. En gros là, il y a des gens qui essayent de façonner une agriculture contre la désertification, une agriculture contre l'érosion, et donc il y a des initiatives et des leviers. Je voudrais juste donner deux leviers, hein, pour être positif. La première chose, c'est de que ça fait très longtemps en fait que l'humanité sait piloter les microbes du sol sans faire de microbiologie. On a planté des plantes dites fixatrices d'azote comme des trèfles, des luzernes. Déjà Columelle dans l'Antiquité nous parle de cette méthode. En fait, c'est des plantes qui, dans leurs racines, abritent des bactéries qui, comme je disais tout à l'heure, transforment l'azote de l'air en protéines et qui donc enrichissent et la plante et le sol en azote. Vous voyez, on peut, avec des plantes, activer la vie du sol, et c'est ça qu'il faut qu'on fasse en choisissant des plantations, en diversifiant les plantes, en ayant toujours des plantes entre deux récoltes qui nourrissent le sol, en faisant de l'agroforesterie, en faisant des cultures mixtes, en ayant des cultures intermédiaires. Le deuxième levier, parmi d'autres, mais quand même il est puissant, c'est de remettre de la matière organique dans les sols. D'abord parce que si on ne met pas d'engrais minéraux, les fameux engrais chimiques. Il faut quand même redonner, Claire Chenu le disait tout à l'heure dans l'extrait qu'on a écouté, il faut redonner l'azote, le phosphate qui correspond à tout ce qu'on emmène. Et bien ça, si vous mettez de la matière organique, elle va se décomposer lentement et jouer le rôle d'engrais.
Alors matière organique qui vient...
De nos poubelles, de l'élevage. Et c'est là qu'on voit d'ailleurs que l'élevage animal n'est pas à opposer à l'agriculture. Un élevage raisonné et extensif fournit du fumier. Rappelez-vous, Sully, labourage et pâturage sont les mamelles de la France. Ben, le pâturage, c'était juste que ça permettait de faire du fumier pour les cultures. Donc remettre de la matière organique, c'est promettre une libération lente et régulière d'azote et de phosphate au sol. C'est augmenter, on l'avait évoqué tout à l'heure, la capacité du sol à retenir l'eau. C'est aussi relier les morceaux de sol et lutter contre l'érosion. C'est en nourrissant les micro-organismes du sol et de là les animaux du sol. C'est leur permettre de s'activer et de faire des trous dans le sol qui vont permettre son aération et permettre la pénétration d'eau. Et puis dernière chose, et là vous voyez que c'est l'écologie solution, ça résout plein de problèmes, c'est que toute cette matière organique, c'est autant de CO2 qui n'est pas dans l'air. On compte que si chaque année on augmentait de 0,4% la teneur en matière organique des sols de la Terre entière, on mettrait du carbone dans le sol à hauteur de ce que chaque année l'humanité produit de CO2. C'est un moyen de lutter contre l'effet de serre tout en améliorant les sols. Vous la voyez, l'écologie solution, il y a des leviers. Maintenant, nous devons trouver la façon de les généraliser pour toutes les productions et dans tous les bassins de production.
Oui, et puis comment concilier cette bonne préservation du sol avec les besoins d'augmenter la productivité pour nous nourrir tous? C'est souvent l'argument qui est opposé par les partisans de justement des intrants chimiques dans les sols en disant « bah oui, mais enfin bon, c'est pas avec du couvert végétal et de l'agroécologie qu'on va nourrir la planète ».
Faux, faux. On ne le saura ça que quand on aura étudié vraiment finement, et c'est pour ça que je parlais du LAPS tout à l'heure, que Claire Chenu fait des travaux à l'INRA en France. En fait, on saura ça quand on aura vraiment commencer à regarder qu'est-ce qu'on peut faire de façon optimale. Aujourd'hui, ce qui sort, c'est que l'agriculture biologique, c'est une réduction de production de l'ordre de 15%. Si vous avez une agriculture qui n'abîme pas les sols sous couvert, vous êtes entre 0 et 10% de réduction de production. Vous allez me dire, ah, quand même, oui, mais je vous rappelle qu'un tiers de la production alimentaire en Chine, en Europe, aux États-Unis, finit à la poubelle. Et donc, on a une marge énorme en gaspillant moins. Alors évidemment, ça ne se fera pas en un jour. Et c'est aussi pour ça qu'il faut raconter ça aux consommateurs, parce que c'est un peu les consommateurs qui peuvent choisir l'agriculture et choisir de ne pas gaspiller. Mais pour moi, dire qu'aujourd'hui, on ne saura pas faire une agriculture plus propre, c'est dire en 1750, l'homme ne volera pas.
Donc on peut tout à fait parier finalement sur cette vie fantastique qu'il y a dans les sols et qui peut être extrêmement productive si on la laisse s'épanouir. C'est ça ce que vous dites.
On n'a pas le choix de toute façon. Si on veut transmettre à nos enfants des sols, il faut faire un peu différemment. Et vous savez quoi, les sols, ils ont existé avant l'homme. Inspirons-nous, on parle beaucoup de biomimétisme en ce moment, appliquons cette règle-là. Inspirons-nous de la façon dont les sols ont fonctionné, c'est-à-dire par leur vie. Et essayons de jouer sur cette vie pour faire ce que nous avons maladroitement essayé de faire en mettant les sols sous perfusion d'engrais et en les triturant comme des salopios avec le labour.
Alors Marc-André Sellos, vous partagez votre savoir dans ce livre, vous venez dans cette émission, vous faites des conférences, mais la science des sols, ça s'appelle la pédologie. Donc on sait bien qu'il faut faire circuler cette information. Est-ce que cette science des sols, elle est suffisamment enseignée aujourd'hui? Est-ce que ce n'est pas un problème aussi ça?
Alors moi je me bats pour ça, on a fait aussi une BD chez Dargaud avec Mathieu Burnia qui s'appelle Sous Terre, c'est paru au printemps là, ça raconte, hein, c'est un voyage sous terre qui permet de comprendre qu'est-ce qu'on peut faire et pas faire demain. Le muséum inaugure cette semaine une très belle exposition immersive,
l'Odyssée sensorielle. Naturelle.
Voilà, c'est au Jardin des Plantes à Paris, où il y a une salle où on est plongé dans le sol. On sent, on voit, on vit dans le sol. Donc, il y a plein de moyens de faire, et moi, je me bats. J'ai mis, notamment, étant dans la commission des programmes en France, les sols au programme de seconde. Je me bats, moi, pour qu'on enseigne ça aussi aux plus jeunes. Parce qu'une fois de plus, les consommateurs, c'est eux qui vont valider par leur carte bleue les modes de production. Donc on a vraiment besoin que tout le monde sache ce que c'est que les sols. C'est un combat permanent et nous vivons malheureusement en France dans un pays où on a un gros recul de l'éducation aux sciences de la vie et de la terre, comme on appelle ça, de la biologie donc. Et ça, c'est mutilant. Nous devons redonner les clés du monde à nos concitoyens et à nos enfants. Les vidéos sur Internet, les programmes d'enseignement, il n'y a pas une seule solution. Il faut être partout. Moi, je me bats pour ça. Après, il faut qu'on soit plus nombreux à se battre.
Et sur l'étude même, la pédologie, vous trouvez qu'aujourd'hui, il y a assez de recherches dans le monde entier parce que pendant longtemps, on ne s'en est pas trop occupé finalement. Je crois qu'en France, on n'enseignait quasiment plus la science des sols et c'était pareil dans de nombreux pays.
C'était un truc d'école d'agronomie ou d'école forestière où là, on ne pouvait pas éviter cet objet. Mais à l'université, c'était un peu le truc dégueulasse, pas très, très intéressant. Alors qu'en fait, on l'a dit... C'est là que sont les écosystèmes terrestres. Il y a des, j'en parle dans le livre, il y a des organismes qui vivent d'une façon absolument incroyable vu de la surface. Mais c'est vrai qu'on a besoin de pousser ça. Alors, on a, nous, avec l'INRA, maintenant ça s'appelle l'INRAE d'ailleurs, un organisme où il y a de très belles recherches sur les sols. Mais c'est vrai qu'on a besoin d'aller plus loin, et notamment plus loin dans les agricultures alternatives. Mais on a aussi besoin de nos concitoyens. Ce n'est pas le tout de générer des bonnes solutions. Il faut qu'en face, on ait la société qui les adopte, et qui, éventuellement, là où il faut donner un petit coup de pouce, les finances. Parce que vous savez, peut-être que ce sera plus cher d'acheter bio. Bon, si vous tenez compte des maladies induites par le conventionnel, c'est moins cher. Mais au moment où vous achetez vos carottes, vous ne payez pas la sécurité sociale les gens qui auront des cancers. Et donc, on se retrouve avec un problème d'une vision assez systémique où, finalement, des carottes 10% plus chères, c'est moins cher sur 10 ans, parce que ça rend moins malade. Et on a besoin de faire comprendre cette vision systémique où, en fait, les sols, ils existent en dehors d'eux, et ils construisent notre santé.
Donc l'avenir de l'humanité dépend des sols.
Comme son passé en a dépendu, l'histoire ne fait que se répéter. Et on a cet impératif moral de donner à nos enfants les moyens de vivre aussi dignement que nous avons vécu. Ça passe par un héritage de sol fonctionnel.
Merci beaucoup Marc-André Sellos d'être passé dans C'est pas du vent. Je rappelle que vous venez de publier L'origine du monde, une histoire naturelle du sol à l'intention de ceux qui le piétinent. C'est publié chez Actes Sud et je dois dire que c'est vraiment un cours de sol pour les nuls. Je me suis régalée à la lecture de ce livre. Merci donc d'être venu dans les studios de RFI. Merci à François Porcheron pour la réalisation de cette émission et merci à vous évidemment, chers auditeurs, pour votre fidélité. N'hésitez pas à nous écrire, c'est pas du vent @rfi.fr ou sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi nous réécouter en podcast et partager nos émissions sur vos plateformes préférées. Prenez soin de vous et des vôtres. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, même planète, même heure.
Géopolitique, le débat.